Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, Moscou et Kiev sur l'agenda d'Emmanuel Macron. Rencontre avec Vladimir Poutine dans l'après-midi pour désamorcer la crise ukrainienne. Nous serons à Kiev dans un instant et puis on verra ce qu'espère obtenir le président de son homologue russe. Quand la France remet la main sur ce qu'elle avait vendu aux Américains, l'activité nucléaire d'Alstom sur le point d'être rachetée par EDF. À l'époque, la vente à General Electric avait été supervisée par Emmanuel Macron à Bercy. Politique industrielle, diplomatie, vision de la France, voilà ce qu'on attend d'un candidat à la présidentielle. Il y en aura un face à la matinale d'Inter ce matin.
Oui, Éric Zemmour, notre invité de 8h20 à 9h30. On attend vos questions, amis auditeurs. Vous le savez, dans ces émissions spéciales, vous avez très largement la parole. Alors passez par le standard 01 45 24 7000.
Après Orpea Corian, des dizaines de témoignages de mauvais traitements, là aussi une plainte collective en perspective, les EHPAD privés dans la tourmente. Et si on remettait des maths au programme de tous les lycéens à partir de la première, Jean-Michel Blanquer y réfléchit, c'était devenu une option depuis la forme du bac. Dans ce journal aussi, le deuxième médaillé français des Jeux Olympiques à 41 ans, Johan Claret, remporte l'argent en descente. Des nouvelles de Peng Shuai, interviewé par l'équipe. Tout va bien, dit la joueuse de tennis chinoise. Et puis une symphonie de couleurs au musée d'Orsay, celle du peintre britannique Whistler. Une exposition absolument indispensable. C'est donc un pari diplomatique que prend aujourd'hui Emmanuel Macron, se rendre à Moscou pour obtenir des concessions de Vladimir Poutine. On va y venir dans un instant, avant d'aller présenter ce qu'il aura obtenu à Kiev, capitale d'une Ukraine sous pression, plus de 100 000 soldats russes à ses frontières, une région annexée, la Crimée, une autre aux mains des séparatistes pro-russes, le Donbass. Kiev, où l'ombre de la guerre n'est jamais loin. Reportage sur l'emblématique place Maïdan, signé Benjamin Illy.
Et là, dans la rue, un guitariste.
C'est pour Emmanuel Macron. Мир у всьому світі.
La paix dans le monde, c'est ce qu'il vient de nous dire. La vie continue à Kiev.
Oui, il y a toujours cette espèce d'ombre, de nuages noirs à l'est.
Vous parlez parfaitement français.
J'ai fait mes études en France.
Elle, c'est donc Olga, 37 ans.
100% ukrainienne.
Pendant la révolution, elle était là. En 2014, quand les blessés se comptaient par centaines, les morts par dizaines, elle était là. Place Maïdan, place de l'indépendance.
La guerre n'est pas finie. Poutine est toujours là. On a toujours nos valeurs à défendre.
Vous attendez quoi d'Emmanuel Macron, de sa venue ici?
C'est important de savoir que l'Europe est là, qu'on n'est pas laissé tout seul.
Est-ce que vous avez préparé un sac, des affaires? Est-ce que vous êtes prête à réagir tout de suite?
Oui, on l'appelle trivojna, ça veut dire la valise inquiète. On est armé, on a les documents, les affaires principales dans un endroit précis, on sait où elles sont si jamais il faut quitter l'appartement.
Vous êtes prête à nouveau à vous engager, à défendre votre pays?
J'ai pas envie, mais je suis prête.
Et votre valise inquiète, elle est prête depuis 8 ans?
À peu près, oui.
Merci beaucoup. Дякую.
Benjamin Illy à Kiev pour France Inter. Éviter la guerre, c'est bien l'espoir d'Emmanuel Macron, reçu cet après-midi au Kremlin pour tenter d'arracher un signal de désescalade à Vladimir Poutine, qui refuse de voir l'influence occidentale s'enraciner à ses frontières. Bonjour Maxence Lambrecht.
Bonjour.
Vous allez suivre ce déplacement en forme de pari pour le chef de l'État. Pourquoi se place-t-il en première ligne sur ce dossier et que peut-il obtenir de Vladimir Poutine?
Peu de choses, au mieux sans doute quelques phrases apaisantes lors de sa conférence de presse. On ne va pas tout régler, reconnaissent les diplomates de l'Elysée. Emmanuel Macron va tenter une médiation. Vladimir Poutine va-t-il s'en servir pour gagner du temps ou rentrer dans le jeu? À quel prix acceptera-t-il de retirer une partie de ses troupes, de baisser la pression? Le président français a essayé de voir hier avec Joe Biden quelle contrepartie il pouvait avancer tout à l'heure, ne pas livrer d'armes en Ukraine, écarter toute adhésion à l'OTAN. Les trois derniers échanges téléphoniques entre les deux hommes, l'Elysée n'a retranscrit qu'une seule phrase à la presse. Vladimir Poutine a dit jeudi à Emmanuel Macron « Je t'attends, je veux aller au fond des choses avec toi, tu es un interlocuteur de qualité. » À l'heure où Angela Merkel a quitté la scène, où il préside le Conseil de l'UE, Emmanuel Macron veut essayer de porter une voix européenne.
Et c'est donc une tentative diplomatique sans garantie. À 2 mois de la présidentielle, ce sera aussi un point de plus ou de moins dans la campagne du président.
Oui, un tour de force ou un coup diplomatique sans lendemain, comme ce fut le cas au Liban ou sur le nucléaire iranien. Emmanuel Macron prend le risque de se faire humilier par Vladimir Poutine, qui défie déjà avec Wagner l'armée française au Mali. Il n'a pas le choix, explique un de ses proches. Vous l'imaginez en meeting à Marseille avec des bruits de bottes aux portes de l'Europe. Au Kremlin, en Ukraine, Emmanuel Macron fera campagne sans le dire, sans le vouloir, insiste un de ses conseillers. Il va là où aucun de ses adversaires ne peut le rejoindre, là où une majorité de Français le juge à la hauteur, là où les projecteurs du monde occidental sont son tournée. Tribune inédite qui lui permet encore de donner le ton, le tempo de cette campagne, d'amener ses concurrents sur le terrain qu'il a choisi.
Maxence Lambrecq qui s'envole lui aussi pour Moscou tout à l'heure. Et voici maintenant un dossier industriel et politique. Lui aussi, on parle du retour d'un ancien fleuron français sous pavillon national. Les turbines nucléaires d'Alstom, vendues à General Electric et qu'EDF s'apprête à racheter. Le projet pourrait être bouclé dans la journée, qui concerne 2500 emplois à Belfort. Et c'est un pas de plus dans la nouvelle stratégie nucléaire d'Emmanuel Macron. Il veut de nouveaux réacteurs, à rebours de sa décision de ministre à Bercy, puisque c'est lui qui avait validé la vente d'Alstom aux Américains, Kathleen Comte.
En 2015, General Electric rachète à Alstom son site de fabrication de turbines à vapeur, appelé Arabelle. 7 ans plus tard, le géant américain n'en veut plus. L'État français se lance donc dans de longues négociations. Finalement, un accord semble avoir été trouvé. Les salariés de Belfort sont sur le point de repasser sous pavillon français, cette fois racheté par EDF. Un rachat qui pourrait être voté ce soir lors du conseil d'administration, mais cette opération est loin de faire l'unanimité. D'abord parce qu'EDF va mal, le groupe vient de perdre 8 milliards d'euros, obligé de revendre une partie de son électricité à perte. Ensuite parce que certains salariés se questionnent, notamment sur le projet industriel derrière cette opération. La venue d'Emmanuel Macron cette semaine à Belfort permettra peut-être d'obtenir quelques réponses. Le chef de l'État, ministre de l'économie au moment de la vente du site français aux Américains, devrait faire des annonces sur le nucléaire. Le président souhaite la construction de nouveaux EPR. Le rachat du site aux Américains tomberait donc à pic dans le calendrier présidentiel.
Le calendrier nucléaire qu'Emmanuel Macron devrait donc détailler jeudi à Belfort. À qui le tour après Orpea? Le groupe d'EHPAD privé n'a manifestement pas le monopole en matière d'accusations de maltraitance. Son principal concurrent, Korian, leader français du secteur, est à son tour dans la nasse. Des témoignages affluent dans le bureau de l'avocate Sarah Saldman, qui recueillait déjà les plaintes Orpea et qui lancera une action collective contre Korian au mois d'avril.
J'ai reçu des dizaines et des dizaines de témoignages de familles de victimes me disant « ce que vous dénoncez, ce que j'ai lu dans le livre « Les Fossoyeurs », eh bien, j'ai subi, enfin ma famille a subi la même chose chez Korian. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire quelque chose pour moi ?» Moi, ce que je me suis dit, si vous voulez, en voyant le nombre qui augmentait chaque jour, c'est « on va pas les laisser sur le carreau » et bien sûr qu'il est normal de les aider également. C'est un peu sensiblement les mêmes problèmes que chez Orpea. Donc c'est de la dénutrition, des patients qui maigrissent très vite alors qu'on paye quand même 4 500, 5 000 euros la chambre environ. Ce sont des problèmes où les patients sont déshydratés. Il reste, par exemple, vous avez un patient qu'on couche à 16 heures et qu'on ne lève pas de la journée, des patients qui ne sont pas stimulés, de graves problèmes d'hygiène également. Ça, bon, ça ressort beaucoup. Et après, il y a tout ce qui est plus subtil, toutes les humiliations. Ça veut dire qu'on méprise le patient, on lui parle mal, et tout simplement c'est un manque total d'humanité parce que c'est une pompe à fric.
Voilà, l'avocate Sarah Saldman avec Simon Soubieux. Sur le front du Covid, l'Australie annonce la réouverture de ses frontières aux touristes à partir du 21 février. Il leur faudra une vaccination complète et un visa. Aujourd'hui, c'est le Maroc qui rouvre son espace aérien après plus de 2 mois sans vol, ni au départ ni à l'arrivée du Royaume. Et puis des restrictions encore partout dans le monde qui ne passent plus. Au Canada, où la situation est hors de contrôle, à Ottawa, selon le maire de la capitale, bloqué depuis une semaine par des opposants aux mesures sanitaires et des dizaines de poids lourds qui paralysent le centre-ville. Les protestataires font la loi, ils sont beaucoup plus nombreux que les policiers, dénonce le maire. Nous devons reprendre notre ville, et il décrète l'état d'urgence. Les lycéens vont-ils tous refaire des maths depuis la réforme du bac en 2019? Ceux qui ne prennent pas l'option n'en font plus à partir de la première. Eh bien, ça pourrait changer. Jean-Michel Blanquer reconnaît qu'il faudra probablement remettre des maths dans le tronc commun, ce que réclamaient à corps et à cri les mathématiciens, Jérôme Jadot.
C'est plutôt positif. Voilà le sentiment de la communauté mathématique après les propos du ministre, ouvert donc à un ajout de maths dans le tronc commun en première et terminale. Bon point vigilant décerné par Cédric Villani, médaille Fields et député XLREM.
Je me réjouis que le ministre reconnaisse qu'il faille poser la question. L'enseignement de tronc commun aujourd'hui ne répond pas aux besoins. Mathématiques, ça fait du bien d'en faire. Ça participe aussi à un travail de raisonnement et à un travail de culture scientifique dans un monde qui est plus mathématique qu'il n'a jamais été.
Et pourtant, la part d'élèves de terminale générale suivant un enseignement en maths a chuté d'un tiers avec la réforme du bac, selon les sociétés savantes de mathématiques. Chute encore plus marquée pour les filles, recul de près de 50%. Jean-Michel Blanquer lui réfute tout déclin, aux grandes dames de Mélanie Guenet, vice-présidente de la Société mathématique de France.
Monsieur Blanquer n'a pas de formation mathématique. Il pourra toujours contredire les données chiffrées. Quel que soit le parcours de maths suivi, il y a un décrochage du taux de filles dans les classes de maths.
Au-delà de cette guerre des chiffres, une autre voix pousse pour plus de maths au lycée. Le MEDEF, qui voudrait que la France forme beaucoup plus d'ingénieurs.
Claude Guéant quittera-t-il la prison parisienne de la santé? Incarcéré depuis 2 mois, il sera fixé aujourd'hui sur sa demande de remise en liberté. La justice reproche à l'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy de ne pas faire d'efforts pour payer l'amende et les dommages et intérêts de sa condamnation dans l'affaire des primes en liquide de la place Beauvau. Dans le vif du sujet, en Chine, premières épreuves de ski alpin ce matin aux Jeux Olympiques et deuxième médaille française des Jeux, c'est le français Joan Claret qui remporte l'argent en descente à 41 ans. C'est un vieux de la discipline, le médaillé olympique le plus âgé de l'histoire en ski alpin. Deuxième à Kitzbühel le mois dernier, il a pris la confiance et ça a payé.
Je savais que le début de saison, j'étais pas tout à fait prêt. Kitzbühel, c'est ma piste Kitzbühel, c'est la piste que j'adore, donc je suis monté sur le podium à Kitzbühel, ça m'a donné beaucoup de confiance, même si je connaissais pas la piste ici. Et puis après le premier entraînement, je me suis dit, ah, il y a moyen de faire quelque chose, c'est quelque chose qui peut... Elle m'a plu assez vite. La semaine a été éreintante quand même, parce que je suis plutôt jeune et les jours s'enchaînent et c'est difficile, mais j'ai eu un moment de calme et un moment de sérénité avant le départ et je me suis dit, bah mange la piste et après on verra ce qui va se passer. Mais honnêtement, si on me l'avait dit ce matin, j'aurais eu du mal à le croire. Parce qu'il y a tellement de très très bons descendeurs, bien plus forts que moi. C'est génial, c'est une super apothéose, c'est une super récompense pour tout le travail que j'ai fait et puis l'abnégation que j'ai eue. Donc je suis juste content pour moi et pour tous ceux qui m'ont soutenu surtout.
Voilà, Joan Claret, médaille d'argent en descente aux Jeux Olympiques de Pékin avec Guillaume Battin. Ce matin, il y a aussi le géant d'âme où la double championne olympique américaine Michaela Schifrin a été éliminée dès la première manche, ce qui laisse de la marge à la française Tessa Worley. Et c'est en marge justement des jeu que le journal L'Équipe a obtenu la première interview de Peng Shuai, la joueuse de tennis chinoise qui a disparu des radars après avoir accusé un cacique du parti communiste chinois de viol. Je n'ai jamais dit ça. Voilà sa version aujourd'hui, Fabrice Abgral.
Peng Shuai a accepté cet entretien sous certaines conditions, que les questions lui soient envoyées en amont, qu'elle réponde en chinois et que l'interview soit publiée sans commentaire. Peng Shuai a tenu tout d'abord à remercier tous les joueurs, les sportifs et autres personnalités de s'être préoccupés de sa santé. Mais pourquoi une telle inquiétude, demande-t-elle, et d'ajouter « Je n'ai jamais dit que quiconque m'avait fait subir une agression sexuelle. » Et c'est pour cette raison qu'elle ne souhaite plus, je cite, « de battage médiatique autour de cette histoire ». Elle dit aussi qu'elle n'a jamais disparu et qu'elle ne comprend pas pourquoi cette information a été répandue. À la question « Comment est votre vie en ce moment ?», Peng Shuai répond « Elle est comme elle doit être, rien de spécial ». Elle reconnaît qu'elle a toujours été en contact par mail avec certaines joueuses et les dirigeants de la WTA. Elle avoue même qu'elle a dîné samedi dernier avec Thomas Barr, le président du CIO. À 36 ans, Peng Shuai sait désormais que sa carrière est derrière elle et tout ça à cause des différentes opérations qu'elle a subies au genou. Elle n'envisage pas d'ailleurs de reprendre la compétition.
Peng Shuai et son circulé, il n'y a rien à voir dans l'équipe ce matin. La liesse à Dakar et dans tout le Sénégal cette nuit, l'équipe nationale a battu les pharaons égyptiens en finale de la CAN au tir au but et voilà les Sénégalais champions d'Afrique. Enfin, c'est un peintre de la brume, ses couleurs évanescentes en ont fait un précurseur de l'art du XXe siècle, lui qui était né en 1834. Il s'appelait James McNeill Whistler, il était britannique. Il faut aller voir ses tableaux au musée d'Orsay pour leur poésie et leur avant-gardisme. Et parce que c'est la première fois qu'elle quitte New York depuis un siècle, prêtée, Isabelle Pasquier, par la grande Frick Collection.
Whistler, dandy anticonformiste, avait une obsession, s'approcher d'un art qui serait la science du beau. Dans l'exposition, ces sublimes gravures des Nocturnes de Venise et ces immenses portraits de femmes, dont sa mère. Des femmes seules, dans des robes en satin et mousseline de mélancolie, comme des symphonies de noir ou de blanc. Mais derrière ces impressionnantes présences, il y a la recherche d'une sorte d'abstraction très avant-gardiste pour l'époque. Paul Perrin, commissaire de l'exposition.
Whistler, pour lui, une peinture, c'est avant tout un arrangement de lignes, de formes, de couleurs. Et donc le modèle qui vient à l'esprit de cet artiste, une forme d'abstraction, c'est la musique. La musique ne représente rien, elle est abstraite, mais elle évoque des sentiments, elle évoque des émotions. C'est la première fois dans l'histoire de la peinture qu'un portrait n'est pas simplement un portrait, mais une symphonie en couleurs chair et rose, par exemple, arrangement en gris et noir. Donc c'est vraiment, à l'époque, extrêmement radical, et une manière de dire à ses contemporains, ne regardez regardez pas une femme, un homme, un sujet, une histoire, regardez un tableau. Et quand on regarde par exemple l'arrangement en gris et noir, au 19e siècle, c'est un tableau qui est aussi radical que le carré noir sur fond blanc de Malevitch ou que certaines compositions de Mondrian par exemple.
Whistler a servi de modèle à Proust pour le personnage du peintre Elstir dans La recherche du temps perdu, un peintre visionnaire qui nous fait voir l'invisible.
Voilà Isabelle Pasquier qui a eu la chance de voir cette exposition avant son ouverture demain mardi. On a jusqu'au 8 mai pour se précipiter au musée d'Orsay.
Et merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Marie-Pierre, avis de coup de vent sur la Corse et le sud-est.
Oui, avec la Haute-Corse, Nicolas, placé en vigilance orange, vent violent. On a déjà relevé des rafales à 197 km par heure à 20 km de Bastia, 152 km par heure sur l'île Rousse. Ça souffle également très fort autour de la Méditerranée, hein, jusqu'à 110 km par heure des côtes varoises aux hauteurs des Alpes, comme sur le golfe du Lion aux Pyrénées. Avec ce vent, vous voyez quand même le soleil se lever, comme d'ailleurs des Hauts-de-France à la Normandie, à l'Île-de-France, aux Ardennes, à la Bourgogne. En revanche, le ciel est nuageux de la Bretagne à la Vendée. On retrouve la perturbation d'hier du sud-ouest où il pleut et neige sur les Pyrénées jusqu'au massif central aux Alpes où il neige des 1000 mètres. Sous un mercure contrasté, au plus bas, il fait 0 dans le Vaucluse mais 13 à Bastia, dans le Var ou à Perpignan, 2 à Lille, 6 à Paris, dans la Creuse et vous avez 9 à Quimper.
Et une belle amélioration cet après-midi.
Oui, de la Bretagne à la Gironde, mais aussi sur le massif central, aux Alpes, mais ça restera gris et humide avec quelques pluies de la côte basque aux Hautes-Pyrénées. Partout ailleurs, ce sera un lundi au soleil avec le vent qui va baisser d'un cran autour de la Méditerranée. Et au meilleur de la journée, il fera 6 à Langres, 9 à Aurillac et à Lille, 10 à Paris et Lyon, 12 à Castelnaudary, 13 à Brest, 16 à Nice et Ajaccio, 17 à Montpellier, en se rappelant que février, entre tous les mois, le plus court et le moins courtois.
Merci Marie-Pierre. Il est 8h17, vous écoutez France Inter, géopolitique.
Le 7-9. Listen anywhere. Huawei, Dubaï. Sur France Inter.
Pierre Aski, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Vous aussi, Pierre, vous nous parlez du voyage d'Emmanuel Macron à Moscou aujourd'hui.
Oui, car il y a deux risques dans le voyage qu'entreprend Emmanuel Macron. D'abord à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine, puis demain à Kiev. Ce n'est pas tant l'échec possible, car personne ne peut lui reprocher, d'avoir tenté une désescalade alors que plus de 100 000 soldats russes sont massés aux portes de l'Ukraine. Dont le premier risque est celui du cavalier seul, de réveiller le cliché d'une certaine arrogance qui colle à la peau de la diplomatie française. Et le second, au contraire, est celui qu'on pourrait appeler munichois, c'est-à-dire d'offrir trop de concessions en échange d'une paix incertaine. Ces deux critiques contradictoires ont commencé à fleurir dès que la double visite du président français a été connue vendredi. Pour déminer le terrain, l'Élysée a abondamment communiqué sur les échanges des derniers jours. Emmanuel Macron a eu au téléphone tous les protagonistes de cette crise, à Moscou, Kiev, Washington, Londres ou Berlin, et même le secrétaire général de l'OTAN. Difficile d'en faire plus.
Alors pourquoi le soupçon, Pierre ?
D'abord, Nicolas, parce qu'il y a toujours une dose de méfiance dans une partie de l'Europe vis-à-vis des initiatives françaises soupçonnées de chercher à affaiblir l'OTAN au profit d'une mythique souveraineté européenne. La plupart des pays d'Europe centrale et orientale font plus confiance à l'OTAN et donc aux États-Unis qu'à la France ou l'UE pour les protéger. Mais Emmanuel Macron alimente le soupçon quand il fait mine de croire à la bonne volonté du président russe qu'il rencontre ce soir au Kremlin, là où beaucoup dans le camp occidental ne voient qu'un autocrate désireux de reconstruire l'ancienne sphère d'influence soviétique. Il faut être très réaliste, nous n'obtiendrons pas de gestes unilatéraux, déclarait hier le président de la République dans le journal du dimanche, ouvrant donc la voie à des concessions. Certains de ses détracteurs n'acceptent pas l'idée de céder quoi que ce soit sous la menace d'une invasion de l'Ukraine.
Alors, quelle concession, Pierre, peut-il proposer ?
L'Élysée rebondit sur un concept mis en avant par la Russie ces derniers jours, l'indivisibilité de la sécurité. C'est-à-dire l'idée que la sécurité des uns ne peut se faire au détriment des autres. C'est ce que réclame Moscou à propos de l'élargissement de l'OTAN vers l'Est depuis la fin de la guerre froide. Mais c'est un concept qui marche évidemment dans les deux sens. Les voisins de la Russie ont également des raisons d'être inquiets. Dans le JDD, Emmanuel Macron fait le parallèle entre le traumatisme, c'est son mot, qu'ont subi les peuples et les pays qui ont été soumis à l'URSS dans l'histoire, et, je cite, « les propres traumatismes contemporains de ce grand peuple et de cette grande nation, la Russie ». Des paroles apaisantes qui préparent le terrain à sa visite, mais qui sont trop accommodantes pour certains. Emmanuel Macron a pour lui d'avoir le soutien dans sa démarche du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qu'il rencontrera demain. De quoi amortir les risques d'échec, tout en espérant le succès que serait l'amorce d'une négociation acceptable par toutes les parties. Ce serait bon pour l'Ukraine, bon pour l'Europe, et n'en doutons pas, bon pour un président qui sera bientôt candidat à sa réélection.
Pierre Aski, merci. Dans un instant, Éric Zemmour pour cette matinale spéciale Élysée 2022. C'est un 7-9-30. À tout de suite.
Aujourd'hui sur France Inter, Valérie Bonneton et Stéphane De Groot sont dans la bande originale.
11h, Nagui.
Un couple, un coup de téléphone, une nouvelle identité, un fils qui débarque et la vie qui bascule, c'est qui est Monsieur Schmitt ? La pièce que viendront nous présenter Valérie Bonneton et Stéphane De Groot.
Vraie question ? Ah, c'est ouais, une vraie question.
La bande originale.
Tout à l'heure sur France Inter, à partir de 11h.
Écoutez, intervenez sur l'application France Inter.
Quand Julie a su qu'il y avait chez Orange un nouveau forfait mobile 5G.
120 gigas à seulement 14,99€ par mois.
Elle a d'abord trouvé ça fou. Et puis elle s'est vite dit que...
Le plus fou serait de ne pas en profiter.
Avec Orange, le forfait mobile 120 gigas 5G pour clients pack open sans engagement est à 14,99€ par mois pendant 12 mois, puis 26,99€.
Orange.
Valable jusqu'au 6 avril, réservé aux nouveaux clients. Kit main libre recommandé, 5G uniquement aux zones déployées avec terminal compatible. Couverture sur réseau.orange.fr.
France Inter, 8h22.
France Inter, Élysée 2022. Léa Salamé, Nicolas Demorand, un candidat face au 7-9.
Et c'est